Chapitre 4. La plume et le style. C'était la petite fille la plus fortunée du monde, car non seulement elle avait un père noble, de nombreuses robes de soie et tant de colliers que même une dizaine de fillettes n'auraient pu les porter tous à la fois. Mais elle possédait aussi un coffret de bois gris, taillé dans un cocon de dragon. Et dedans, réduit en fine poussière, se trouvaient enfermés tous les souvenirs heureux de la princesse la plus sage qui eût jamais vécu. Ainsi, chaque fois qu'elle se sentait triste, il lui suffisait d'ouvrir son coffret, de priser un peu de souvenirs, et atchoum, elle retrouvait toute sa joie d'enfant. Vieux conte jamaïlien. Je manquais une marche dans le noir. Cette embardée inattendue me fit cet effet. Le sang et mémoire. Une voix murmura cette phrase à mon oreille, j'en suis sûr.
Le sang est notre identité, renchérit une jeune femme. Le sang garde notre identité. C'est par le sang qu'on se souviendra de nous. Oignez-en bien le bois.
Quelqu'un, une vieille à demi édentée, éclata de rire.
Répétez ça 6 fois de suite le plus vite possible, caqueta-t-elle, et elle se lança. Oignez-en bien le bois, 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 oignez-en bien le bois.
Les autres rirent à leur tour, amusés par sa langue agile.
Eh bien, à vous maintenant, fit-elle, d'un ton de défi.
Oignez-en bien le bois, dis-je docile. Mais ce n'était pas moi. Il y avait 5 autres personnes en moi, qui regardaient par mes yeux, qui passaient ma langue sur mes dents, qui grattaient ma barbe de mes ongles sales, qui respiraient par mon souffle et savouraient l'odeur de la forêt dans l'air nocturne, qui secouaient ma chevelure vivant à nouveau. 5 poètes, 5 jongleurs, 5 conteurs, 5 ménestrels pleins de tours et de jeux de mots, de bonds et de pirouettes, heureux de leur délivrance, étirant mes membres, assouplissant ma voix et se disputant déjà mon attention.
« Que désires-tu? Une chanson d'anniversaire? J'en ai pléthore à ma disposition et il ne présente aucune difficulté, absolument aucune, d'en adapter une au nom du destinataire. »
Massacre, massacre éhonté que ce tronçonnage et ce rafistolage de vieilles dépouilles, ce rhabillage de squelettes. Laisse-moi ta voix, et j'entonnerai un chant qui donnera du cœur au ventre à tes guerriers et fera trembler tes vierges d'un nouvel appétit de luxure. »
C'était un homme, et il emplissait mes poumons jusqu'à l'éclatement pour rugir ses paroles. Chaque intervention, chaque voix provenait de ma gorge. Il se servait de moi comme d'un pantin, d'un mirliton dont il pouvait jouer à loisir.
La luxure s'arrête à une brève humidité, un jaillissement suivi d'éclaboussures, répliqua dédaigneusement une jeune femme qui se rappelait les taches de rousseur sur l'arête de son nez.
J'éprouvais une étrange impression à entendre son timbre flûté sortir de ma bouche.
C'est une chanson d'amour que tu veux, n'est-ce pas? Un air sans âge, plus vieux que les montagnes à raser et plus neuf qu'une graine qui se déploie dans un terreau nourrissant.
Voici la description de l'amour.
Bonne chance,
fit un autre d'un ton accablé. Ses propos se teintaient d'un mépris de petit maître.
Écoutez, tra-la-la-la-la. Oh non, il n'y a rien à en tirer. Il a les cordes vocales d'un marinier et la souplesse d'une bûche. Le plus beau chant du monde ressemblera à un croassement de corbeau au sortir de cette gorge, et je gage qu'il n'a jamais exécuté un saut de main de sa vie. Qui est cet individu et comment a-t-il trouvé notre trésor ?
Des ménestrels, fis-je en gémissant. Des ménestrels, des acrobates et des bardes.
Ah fou, tu ne pouvais choisir que ce trésor-là.
Un groupe de saltimbanques. Quel secours puis-je en espérer ? Et j'enfouis mon visage dans mes mains. Je sentis sous mes doigts le bois rude de la couronne. Je voulus l'ôter, mais elle resta obstinément en place, resserrée sur mon front.
« Nous venons d'arriver, » dit la vieille édentée d'un ton plaintif. « Nous n'avons pas l'intention de partir déjà. Nous représentons un présent superbe, somptueux, qu'on accorde seulement à ceux qui ont le plus diverti le roi. Nous formons un cœur de voix venues de tous les âges, un arc-en-ciel d'histoire. Pourquoi nous refuserais-tu? Quel genre d'artiste es-tu?
Je ne suis pas un artiste,
Je poussai un grand soupir. L'espace d'un instant, je repris conscience de ma présence physique. Je me tenais debout à côté du bûcher funéraire. Je n'avais aucun souvenir d'en être descendu. La nuit étendait ses ténèbres et les insectes s'exerçaient à striduler. Dans l'air fraîchissant, je perçus le riche arôme des feuilles en décomposition. La dépouille du fou y ajoutait sa note douceâtre de putréfaction. Toute sa vie, Œil de Nuit l'avait appelé le sans-odeur. Aujourd'hui, dans la mort, il sentait. Je n'en éprouvais nul écœurement. Il restait assez du loup en moi pour qu'un effluve demeurât simplement un effluve. Mais le passage d'un état à l'autre m'accablait, car il constituait la preuve irréfutable que sa dépouille retournait à la terre et au cycle général de la décomposition et de la renaissance. J'aurais voulu m'arrêter sur cette idée pour en tirer quelques consolations, mais l'impatience des cinq parasites ne me permettait pas de rester en place. Ils me firent lentement tourner en rond, lever les bras, éprouver l'élasticité des muscles de mes pieds, remplir mes poumons. Je les sentais humer, goûter, écouter avidement la nuit, savourer le contact de l'air de la forêt sur mon visage. Ils étaient affamés de vie. « Quel secours te faut-il ? » me demanda la jeune femme aux taches de rousseur, et je l'aperçus douée de compassion, d'une oreille attentive, et derrière, à peine dissimulée, de la fringale insatiable des ménestrels pour le récit du malheur des autres. Elle souhaitait retrouver aussi cet aspect de l'existence. Je n'avais pas envie de le partager. « Non, allez-vous-en, vous ne pouvez rien pour moi. » Puis, j'expliquai malgré moi. « Mon ami est mort, et je veux le ramener à la vie. Un ménestrel peut-il m'y aider ?» L'espace d'un instant, ils observèrent un silence respectueux, tandis que je contemplais le corps du fou. Puis la femme aux taches de son demanda timidement, « Il est bien mort ? Tu en as la certitude ?»«
Oui, » intervint l'homme à la voix retentissante, qui ajouta, « Je puis composer une ballade qui conservera vivace son souvenir d'ici 1000 ans. Je ne connais pas d'autre moyen par lequel les mortels ordinaires peuvent transcender la chair. Donne-moi ce que tu te rappelles de lui et je m'y mets. »
La vieille se montra plus pragmatique.
« Si nous savions comment vaincre la mort, resterions-nous dans notre situation, simple plume d'une parure de fou ?»« Nous avons de la chance de conserver ce peu de vie. » « Dommage que ton ami n'eût pas joui de l'amitié d'un dragon, sans quoi lui aussi bénéficierait-il peut-être de la même faveur. »«
Mais qu'êtes-vous donc ? » demandai-je.
« Des chansons confites, conservées afin que, dans les vers de notre mort, vous puissiez encore goûter aux fruités de nos étés. »
Le jeune fat se gargarisait tant de son image qu'il la gâchait complètement. « Quelqu'un d'autre, par pitié ? » fis-je quand il se tut. Nous avions la faveur de dragon, déclara une femme d'un ton posé. Elle n'avait pas encore parlé. Plus rauque que chez la plupart de ses semblables, sa voix évoquait un étang calme et profond. Je l'entendis dans ma tête en même temps que ma gorge en formait les sons. Je vivais près du fleuve de sable noir, dans un bourg du nom de Junket. Un jour, je suis allé chercher de l'eau, et c'est là que j'ai rencontré mon dragon, une femelle. Elle touchait à peine au bout de son premier été, tandis que j'entamais le printemps de mes années. Elle brillait de 1000 nuances de vert, et ses yeux ressemblaient à de grands creusets d'or fondu. Elle se tenait au milieu du fleuve, dans le courant tumultueux. Soudain, elle s'est tournée vers moi. Mon cœur a plongé dans le tourbillon de ses yeux et n'en a jamais émergé. J'ai dû m'adresser à elle en chantant. La seule parole n'eût pas suffi. Elle m'avait charmé, et je l'ai charmé à mon tour par mon chant. Je suis resté sa ménestrelle et son barde toute ma vie. Et, à la fin de mes jours, elle est venue m'offrir le présent que seul un des siens peut donner. Un éclat de bois qui provenait d'un cocon de dragon. Sais-tu de quoi je parle ? As-tu connaissance de ces berceaux qu'ils tissent afin qu'y dorment les serpents avant d'en renaître sous forme de dragon ? Parfois, l'un d'eux ne survit pas à cette étape et meurt dans son sommeil entre serpent et dragon. Le bois du cocon ne s'érode qu'avec lenteur, et les dragons interdisent aux hommes d'y toucher, sauf avec leur permission. Mais à moi, la belle aile de fumée en avait apporté un morceau. Elle m'a dit de le tremper dans mon sang, puis de l'enoindre du bout des doigts, afin de bien l'en imprégner, tout en gardant à l'esprit l'image d'une plume. Je n'ignorais pas la valeur d'un tel cadeau. Rares sont les bardes qui se le voient accorder, même ceux qui ont bien servi leur dragon. Il signifiait que je prendrais place dans la couronne des ménestrels, afin que mes chansons, mes récits, ma pensée perdurent bien après ma mort. Cette parure appartient au souverain de toutes les terres du fleuve. Lui seul décide qui peut porter la couronne et emprunter la voie de ménestrel disparu. C'est un grand honneur, car seul un dragon peut décider qui s'incarnera en plume, et seul le souverain peut octroyer le droit de coiffer le cercle de bois. Oui, un grand honneur. Ah, comme je m'agrippais à ma plume en mourant, car je suis morte comme ton ami. Quel dommage qu'il n'ait pas joui de la faveur d'un dragon pour bénéficier lui aussi de la même faveur. L'ironie de la situation me terrassa. Il aurait dû en bénéficier. Il a péri pour réveiller un dragon, le dernier mâle de son espèce, afin que Glacefeu puisse s'envoler, s'accoupler avec Tintaglia, la dernière femelle, et repeupler notre terre de dragons. Le silence qui s'ensuivit me dit leur stupéfaction.
Eh bien, voilà une histoire qui vaut qu'on la raconte. Donne-nous tes souvenirs, et chacun de nous écrira une ballade, car pareil événement renferme assurément une vingtaine au moins,
s'écria la vieille, amollissant ma bouche. Mais je ne veux pas de ballade, je veux le fou tel qu'il était, vivant et en bonne santé.
Quand on est mort, rétorqua l'homme à la voix sonore, mais avec douceur. Si tu souhaites nous ouvrir ta mémoire, nous te créerons des chansons. Même avec ta voix, elles perdureront, car les vrais ménestrels t'entendront les chanter et voudront les interpréter correctement. Veux-tu cela ?
Non. Je t'en prie, Fitz, non. Laisse que tout soit fini.
Le murmure avait effleuré mes sens, guère plus fort qu'un souffle. Je frémis, saisi d'un espoir et d'un effroi éperdu. « Fou !» chuchotai-je, en formant le vœu fervent d'obtenir une réponse. Mais ce fut une cacophonie de pensées enchevêtrées que j'entendis soudain. Une dizaine de questions simultanées et incompréhensibles posées par les cinq ménestrels. Pour finir, l'homme à la voix mugissante perça dans le vacarme.
« Il est ici avec nous, dans la couronne. Il a introduit son sang dans la couronne. »
Mais du fou, nulle réaction. Je me fis son porte-parole. Elle était brisée. Il l'a recollée à l'aide de son sang.
Brisée ?
La vieille paraissait épouvantée.
Mais nous aurions tous disparu à jamais.
Il ne peut pas rester. Il n'a pas été choisi. En outre, la couronne nous appartient à tous. S'il s'en empare, nous ne pourrons plus nous exprimer, sinon par son biais.
Le jeune homme était indigné de cette brutale annexion de son territoire.
Il doit partir. Conclut le ménestrel à la voix retentissante. « Nous regrettons fort, mais il doit partir. Il n'est ni juste ni approprié qu'il demeure parmi nous. »«
Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été invité. Il n'est pas le bienvenu. »
Ils ne me laissèrent pas le temps d'émettre une opinion. La couronne se resserra brusquement sur mon front. J'ignorais à quelle manœuvre se livraient les ménestrels, mais ils paraissaient m'avoir quitté pour se retirer dans la coiffe. Pour le présent, je restais seul maître de mon corps. Je tentai d'ôter la parure, mais ne pus glisser ne fût-ce qu'un ongle entre le bois et ma peau. Avec horreur, je me rendis compte qu'elle se fondait, se dissolvait en moi, comme un clandard dans un dragon de pierre.
« Non ! » hurlai-je.
Je secouai la tête en tous sens en essayant d'arracher la couronne, mais en vain. Puis, je ne sentais plus un cercle de bois sous mes doigts, mais un bandeau de chair. Malade d'épouvante, je tâtai les plumes, et elles se courbèrent souplement comme le panache d'un jeune coq. J'étais au bord de la nausée. Tremblant, je retournai au bûcher et m'assis pesamment à côté de mon ami. Je ne sentais nulle dissension dans la couronne, mais au contraire un effort concerté des cinq ménestrels. Le fou ne résistait pas.
Il ignorait totalement comment accomplir ce qu'ils exigeaient. Je n'avais plus voix au chapitre. J'avais l'impression d'assister de loin à une querelle de marché, à un conflit dans lequel je n'avais aucune part. Ils allaient l'expulser de la parure, et alors il ne serait plus, définitivement. Je ne pouvais rien pour l'empêcher. Je le pris dans mes bras et le serrai contre moi. À la rigidité avait succédé la détente. Sa main tomba mollement de côté, et je la saisis par le poignet pour la ramener sur sa poitrine. La voir pendre inerte éveilla soudain un très vieux souvenir. Le front plissé, je m'efforçais de l'exhumer complètement. Il ne provenait pas de ma mémoire, mais de celle d'Œil de Nuit, et il le voyait par son regard de loup. La lumière était celle de la chasse et les couleurs éteintes. Pourtant, je participais à la scène d'une façon que je ne comprenais pas. Et brusquement, tout me revint. Le gris, humbre, s'appuie sur le manche d'une pelle et son haleine blanchit dans l'air froid. Il se tient à quelque distance de nous afin de ne pas nous effaroucher. Cœur de la meute est assis au bord de ma tombe. Ses pieds pendent dans le trou au-dessus de mon cercueil défoncé. Il tient mon cadavre dans ses bras et il en agite la main dans ma direction pour inviter le loup à s'approcher. Son vif est puissant et Œil de Nuit ne trouve pas la volonté de lui désobéir. Cœur de la meute s'adresse à nous en un flot régulier de mots apaisants. Reviens là-dedans. Ça t'appartient, changeur. Retourne-y. Œil de Nuit retrousse les babines et gronde. Nous savons reconnaître la mort. Ce corps est mort. C'est une charogne impropre à faire un repas convenable. Œil de Nuit transmet le message à Cœur de la meute. Ça sent mauvais. C'est de la viande gâtée. Nous n'en voulons pas. Il y a meilleur à manger, près de l'étang. Approchez, commande Burick. À cet instant, je le perçois à la fois comme Burick et Cœur de la meute. Je me décale du point de vue du loup pour me placer dans mon souvenir humain de la scène. Depuis longtemps, je me doutais que j'avais bel et bien péri, malgré l'assurance d'Imbre que ces poisons avaient seulement provoqué un décès apparent. Trop endommagé. Mon organisme ne pouvait pas supporter la plus petite dose de produits toxiques. Dans ma mémoire, mon flair de loup détecte impitoyablement la vérité. Ce corps est mort. Mais le vif aiguisé du loup m'apprend aussi ce que je n'avais jamais soupçonné. Cœur de la meute ne se contente pas de tenir ma chair dans ses bras. Il l'a préparée à me recevoir, et elle est prête à se remettre à fonctionner s'il réussit à m'y attirer. Le murmure d'Œil de Nuit qui cherche à me dissuader effleure mes sens. Le vif et non l'art. Burick avait employé le vif, mais il possédait dans cette magie une puissance bien supérieure à la mienne et une sagesse encore beaucoup plus grande. Je caressais le visage à présent amolli du fou en m'efforçant de me superposer à lui. Mais je ne parvins pas à m'introduire dans son corps. Il n'avait pas le vif. La différence résidait-elle là? Je l'ignorais. Pourtant, je savais qu'il existait un moyen, un lieu où autrefois nous avions établi un lien, lui et moi. Il m'avait extrait du loup pour me réintroduire dans mon corps. J'exposais mon poignet à la clarté indécise de la lune et distinguais l'ombre de ses traces de doigts. Je pris sa main broyée dans la mienne. On en avait arraché trois ongles. Je repoussais de mon esprit le supplice qu'il avait dû endurer et plaçais soigneusement le bout de ses doigts fuselés et délicats sur les empreintes qu'il avait laissées sur ma peau. Alors, je cherchais le mince fil d'art qui s'était tissé entre nous de nombreuses années plus tôt. Et je le trouvais. Arachnéen, mais bien là. Je rassemblais mon courage, sachant que je m'apprêtais à plonger dans la mort elle-même. Néanmoins, rien ne m'en empêcherait. Ne venais-je pas de me proclamer prêt à échanger ma vie contre la sienne? Je sentais les ménestrels qui le chassaient de la couronne et le poussaient dans ma chair, mais je n'avais pas le temps de lui expliquer mon objectif. Je pris mon souffle et me laissai ruisseler le long du lien d'art, abandonnant mon corps au réveil de sa conscience pour pénétrer dans le sien. Pendant une fraction de seconde, mes perceptions se dédoublèrent. Le fou occupait ma chair et voyait par mes yeux. Il les baissa avec épouvante sur son cadavre qui gisait dans mes bras. Il leva la main pour toucher mon menton hérissé de chaume.
Bien-aimé, fit-il d'un ton accablé. Oh, bien-aimé, qu'as-tu fait ?
Tout va bien, répondis-je à mi-voix. Si j'échoue, prends ma vie et vis-la. J'accepte ta mort de grand cœur. Puis, comme une pierre qui s'enfonce dans la vase, je me laissai choir dans la chair inerte du fou. Je me retrouvais dans un organisme mort et mort depuis plusieurs jours. Il n'y restait plus de vie, et ce n'était donc plus un corps. Aussi inanimé qu'une pierre, il se réduisait en ses composants essentiels et retournait à la terre. Mon art ignorait quoi faire de pareille situation. Je repoussais l'envie de l'employer, d'appeler lourd, humbre et devoir à la rescousse. Il m'obligerait seulement à réintégrer ma propre enveloppe physique pour me sauver. Le vif permet de percevoir la vie qui nous entoure, la trame, le réseau qui nous relie à toute créature vivante. Certaines, ardentes et complexes, grandes bêtes pleines de vigueur, attiraient immanquablement mon attention. Les arbres, les végétaux se manifestaient avec plus de discrétion, mais participaient de façon plus fondamentale à la perpétuation de la vie que les êtres doués de mouvement. Ils constituaient la chaîne sur laquelle le monde se tisse, et sans eux, nos fils s'en mêleraient et nous tomberions. Pourtant, jamais ou presque, je n'avais arrêté mes regards sur eux, sinon en passant, pour observer le vert fantôme d'existence des très vieux arbres. Mais au-delà, en dessous de tout cela s'écoulait une vie encore plus nébuleuse. La mort. La mort, point d'intersection de la trame qui nous relie tous, n'était pas la mort. Dans ce nœud coulant qui se resserrait, la vie, loin de disparaître, se reformait. Le cadavre du fou était le théâtre d'une orgie vitale, un chaudron bouillonnant où se préparait la renaissance. Chaque élément qui, joint aux autres, faisait de son corps un organisme vivant restait présent. Mais parviendrai-je à le persuader de reprendre sa place d'origine plutôt que d'adopter les formes simples auxquelles il revenait peu à peu? Privé de mon souffle, de ma voix, de mes sens, je m'abandonnais. J'eus un peu l'impression de pénétrer dans le fleuve d'art, car le courant de la mort tiraillait et arrachait les fibres de la chair du fou, emportait des bribes de lui pour les employer ailleurs. Je restais fasciné devant cette dispersion ordonnée, ce tri et cette réorganisation, comme devant une partie de cailloux jouée par des participants de talent. Les éléments se déplaçaient selon un motif précis. J'essayais d'en ramener un à sa position de départ, mais il m'échappa et rejoignit ses semblables.
C'est toujours le même jeu, et encore une fois, tu ne le vois pas. Il ne s'agit pas de chasseurs individuels, mais d'une meute. Ne t'oppose pas à la volonté des individus, ils sont trop nombreux. Tu ne pourras pas les arrêter. Dirige-les, utilise-les. Le nouveau qu'ils fabriquent, remets-le à la place de l'ancien.
Je reconnus la sagacité du loup. Rolf le Noir m'avait prévenu, et il avait raison. Le loup demeurait avec moi, non tel qu'il était autrefois, mais tel que nous étions autrefois. Cette nuit-là, je me servis de sa vision du monde, de sa conscience claire et simple que, quand on mange de la viande, on mange de la vie autant que de la chair. L'équilibre élégant entre le prédateur et la proie s'appliquait à ma tâche actuelle autant qu'à nos chasses de jadis. La mort alimente la vie. Ce que l'organisme dissocie, elle le réunit ensuite. Il ne s'agissait pas de guérir par l'art, mais d'accompagner, de guider les changements, d'orienter les éléments pour qu'ils reprennent la disposition que je gardais en mémoire. Je ne possédais certainement pas la compétence de Burig dans cette entreprise de restauration. De temps en temps, les flux que j'avais corrigés s'inversaient et je devais à nouveau les convaincre de bâtir au lieu de détruire. En outre, le fou n'était pas complètement humain, et cette nuit-là, je pris toute la mesure de sa nature étrangère. Je croyais l'avoir connu. Au cours de ces heures que je passais à le reconstruire, je le compris et l'acceptais différent. Ce fut en soi une révélation. J'avais toujours cru nos ressemblances plus nombreuses que nos disparités. Je me trompais complètement. On pouvait le dire humain autant qu'on pouvait me dire loup. Je poursuivis ma tâche après que j'eus senti le sang recommencer à circuler dans ses veines et je perçus peu à peu que je pouvais remplir de nouveau ses poumons d'air. Certaines parties s'étaient réparées par le fait même de leur reconstruction. Il avait deux côtes brisées. Des moignons d'os avaient retrouvé leurs morceaux manquants et entamé une lente soudure. Des fils de chair arachnéen refermaient ses plaies les plus graves, mais je restais dépourvu là où la chair, l'os ou l'ongle manquait. Délicatement, je déclenchais le processus par lequel il se guérirait lui-même. Je n'osais pas accélérer à l'excès sa reconstruction. Il avait déjà consumé les réserves de son organisme. Je fis seulement repousser de la peau de son dos pour lui éviter l'atroce baiser de l'air sur la chair à nu, et doucement, je réunis les deux lambeaux de la langue fendue dans le sens de la longueur. Il lui manquait de dents, mais je n'y pouvais rien. Une fois assuré que j'avais fait tout mon possible, je lui fis prendre une grande inspiration et ouvrir les yeux. La nuit s'acheminait vers l'aube. Les étoiles les moins brillantes avaient déjà cédé devant la lente progression du jour. Un oiseau avait entonné son chant matinal, un autre le défia. Un insecte volant passa en bourdonnant près de mon oreille. Plus lentement, je pris conscience de mon corps. Le sang circulait en moi et je sentais le goût de l'air qui glissait dans mes poumons. C'était bon. Il y avait de la douleur, beaucoup de douleur. Mais elle est le messager de l'organisme, le signal qui avertit d'une anomalie à corriger. Elle dit qu'on est toujours vivant. J'écoutais ce message avec béatitude et pendant un long moment, je me satisfis de ce bonheur. Enfin, je battis des paupières et tournai la tête. Quelqu'un me tenait dans ses bras. Celui qui passait sous mon dos à vif faisait comme une cinglure écarlate de souffrance. Mais je n'avais pas la force de m'en écarter. Je levai le visage et vis mes propres traits. Je n'eus pas la même impression qu'en me regardant dans une glace, je paraissais plus vieux que je ne le croyais. Il avait ôté la couronne, mais elle avait laissé sur mon front un bandeau en relief et enflammé. J'avais les yeux clos et des larmes roulaient sur mes joues. Pourquoi pleurais-je? Comment pouvait-on pleurer par une aube si belle? Au prix d'un immense effort, je portais lentement une main jusqu'à mon menton. Mes yeux s'ouvrirent aussitôt et je les observais avec étonnement. Je ne les savais pas si noirs, ni capables de s'écarquiller tant. Je les baissais pour me contempler, incrédule. « Fitz !» L'inflexion était celle du fou, mais la voix rauque m'appartenait. Je souris. « Bien-aimé !» Ses bras se refermèrent sur moi convulsivement. Je me raidis sous l'effet de la souffrance, mais il ne parut pas s'en rendre compte. Les sanglots l'ébranlaient tout entier.
« Je ne comprends pas !»
lança-t-il au ciel d'un ton plaintif.
« Je ne comprends pas !»
Il parcourut les alentours du regard, et sur mon visage s'inscrivirent une peur et une indécision éperdue.
« Je n'ai jamais vu ce moment. Je suis hors de mon temps, au-delà de ma fin. Que s'est-il passé? Que nous est-il arrivé ?»
J'essayais de bouger, mais je n'avais aucune force. Je me détournais quelque temps de ses pleurs pendant que j'évaluais mon état. J'avais subi de nombreux dégâts, mais mon organisme travaillait à les réparer. Je me sentais terriblement fragile. Je pris mon souffle et murmurai.
La peau de mon dos vient de repousser et reste sensible.
Il aspira une goulée d'air en hoquetant, puis la respiration hachée s'exclama.
Mais je suis mort. J'occupais ce corps que je tiens et elle m'a découpé la peau du dos. Je suis mort.
Sa voix se brisa sur ces derniers mots.
Je m'en souviens. « Je suis mort !»
C'était ton tour de mourir, acquiesçai-je,
et le mien de te ressusciter. Mais comment? Où sommes-nous? Non, je le sais, mais à quelle époque? Comment pouvons-nous nous trouver ici vivants? Comment est-ce possible? Calme-toi.
J'avais la voix du fou. Je tenta d'imiter son ton amusé, et j'y parvins presque.
Tout va bien.
Je tendis la main vers son poignet et le bout de mes doigts se plaça de lui-même où il fallait. Un instant, nous restâmes les yeux dans les yeux tandis que nous fusionnions. Un seul être. Nous ne formions qu'un seul être depuis toujours.
Œil de Nuit l'avait dit, il y a bien longtemps. Quel bonheur dans ce sentiment de complétude. Je me servis de notre force pour me redresser et appuyer son front contre le mien. Je ne fermais pas ses yeux, et nos regards se plantèrent l'un dans l'autre. Je sentis mon souffle effrayé sur ses lèvres.
« Reprends ton corps, »
ordonnai-je à mi-voix. Et nous nous transvasâmes. Mais à l'espace d'une seconde, nous avions été un. Les frontières avaient disparu entre nous pendant notre jonction.
Aucune limite,
avait-il déclaré un jour, et je compris soudain le sens de cette phrase, nulle démarcation entre nous. Lentement, je me retirai de lui. Je m'étirai le dos, puis regardai le fou dans mes bras. Un bref moment, il me dévisagea, l'œil limpide, et ses traits n'exprimèrent qu'un étonnement émerveillé. Puis, la douleur de son organisme meurtri exigea son attention. Il ferma étroitement les paupières avec une grimace de souffrance. « Pardon, » murmurai-je, et je le déposai doucement sur le manteau. Les rameaux de résineux de son bûcher funéraire lui faisaient désormais un matelas. Tu ne possédais pas les réserves nécessaires pour que je puisse te remettre complètement en état, peut-être d'ici un ou deux jours. Mais il dormait déjà. Je rabattis un coin du manteau sur ses yeux pour l'abriter du soleil levant. Puis, je humais l'air et songeai que l'heure était propice à la chasse. J'y passai la matinée et rapportai un couple de lapins et quelques légumes. Le fou n'avait pas bougé. Je vidai le gibier, le suspendis à ses gouttées de son sang, puis je dressai la tente à l'ombre. Je retrouvai la robe des anciens qu'il m'avait donnée naguère et l'étendis à l'intérieur, après quoi j'allai voir le fou. Il dormait toujours. J'observai que des insectes piqueurs avaient déjà commencé à s'attaquer à lui. En outre, le soleil tapait de plus en plus fort sur sa peau sensible. Je devais le déplacer. « Bien-aimé, » fis-je à mi-voix. Il ne réagit pas. Je continuai à lui parler néanmoins, car il arrive parfois qu'on ait conscience de ce qui se passe autour de soi, même quand on dort. « Je vais te transporter. Ça va peut-être faire mal. » Pas de réponse. Je glissais les avant-bras sous le manteau et le soulevais aussi délicatement que possible. Il poussa un cri inarticulé, puis se mit à se contorsionner pour échapper à la douleur. Il ouvrit les yeux alors que nous traversions l'ancienne place en direction de la tente. Il me regarda sans me voir, sans me reconnaître, sans se réveiller vraiment.
« Par pitié, » fit-il, implorant. « Par pitié, arrête. Ne me fais plus mal, je t'en supplie. »
« Tu n'as plus rien à craindre, » dis-je d'un ton rassurant.
« C'est fini, c'est terminé. »«
Pitié !»
cria-t-il. Je dus m'agenouiller pour lui faire passer l'entrée de la tente, et il eut un hurlement strident quand le tissu effleura son dos. Je l'allongeai avec un luxe de douceur. « Ici, tu seras à l'abri du soleil et des insectes, » lui dis-je. Je ne pense pas qu'il m'entendit.
« Pitié, assez, je ferai ce que tu voudras, mais arrête, arrête !»«
C'est fini, » répétai-je, « tu n'as plus rien à craindre. »«
Pitié !»
Ses paupières se refermèrent en papillotant, et il cessa de s'agiter. Pas un instant, il ne s'était complètement réveillé. Je sortis. Il me fallait prendre de la distance. Ce qu'il avait subi me mettait le cœur au bord des lèvres et suscitait d'atroces souvenirs chez moi. J'avais connu la torture. Royal employait des méthodes grossières, mais efficaces. Toutefois, je disposais alors d'un mince bouclier qui avait manqué au fou. Je savais que, tant que je résistais, tant que je refusais de livrer la preuve que j'avais le vif, mon bourreau ne pouvait pas me tuer. Ainsi, j'avais supporté les coups et les privations sans donner à Royal ce qu'il désirait, sans quoi il m'aurait assassiné sans le moindre scrupule et avec la bénédiction des ducs du royaume. Et quand j'avais senti que j'arrivais au bout de mon rouleau, je l'avais privé de ma mort en avalant du poison plutôt que le laisser me briser. Mais le fou, lui, n'avait pas de secret derrière lequel s'abriter. La femme pâle ne voulait rien de lui sinon sa souffrance. À quelle supplication, à quelle promesse l'avait-elle forcé avant de rire de sa capitulation et de lui infliger de nouveaux tourments? Je préférais ne pas le savoir. Je préférais ne pas le savoir tout en éprouvant de la honte à fuir ainsi son calvaire.
en refusant de reconnaître son martyr, pouvais-je feindre qu'il n'avait pas existé? Je m'absorbe dans de petites tâches quand je souhaite esquiver certaines questions qui me gênent. Je remplis donc mon outre d'eau fraîche à la rivière, récupérais du bois du bûcher pour préparer un feu, puis, une fois qu'il flamba bien, mis un lapin à rôtir sur une broche et l'autre à mijoter dans une casserole. Je ramassai ensuite mes vêtements d'hiver que j'avais ôtés en arrivant, les dépoussiérai, puis les étendis sur des buissons pour les aérer. Je trouvai alors la couronne au coq, là où le fou l'avait jetée, apparemment par dépit ou rancœur. Je la rapportai au camp et la déposai dans la tente, près de l'entrée. Puis je redescendis à la rivière, fis ma toilette en me frottant avec des prêles et nouai mes cheveux mouillés en queue de guerrier. J'entrais pourtant mal dans la peau du personnage. Me sentirais-je mieux si j'avais tué la femme pâle? Et si je retournais l'achever, puis rapportais sa tête au fou? J'aurais sans doute mis cette idée à exécution si j'avais pensé que cela pût m'apaiser. Je retirai le ragoût du feu pour le laisser refroidir et dégustai le lapin rôti. Rien n'égale la saveur de la viande fraîche quand on n'en a pas mangé depuis longtemps. Elle était succulente, saignante près de l'os. Je mangeais à la façon d'un loup, en m'immergeant dans l'instant et dans l'association. Mais, le dernier fémur rongé et jeté aux flammes, je dus faire face à la soirée qui m'attendait. J'emportai la casserole de ragoût sous la tente. Le fou ne dormait plus. Allongé sur le ventre, il regardait fixement un angle de l'abri. La lumière rasante de la fin d'après-midi traversait les panneaux de tissu et le couvrait de mouchetures colorées. Avant même d'entrer, je le savais réveillé. Maintenant que notre lien d'art s'était renoué, je ne pouvais pas l'ignorer. Je parvenais à bloquer en grande partie la douleur physique qu'il ressentait, mais j'avais plus de mal à repousser son angoisse. « Je t'apporte à manger, » dis-je. Il ne répondit pas. Et au bout d'un moment, je repris. « Fou, il faut te restaurer. J'ai aussi de l'eau fraîche pour te désaltérer. » J'attendis encore en vain. « Je peux préparer de la tisane, si tu veux. » Finalement, j'allai chercher une chope et la remplis de bouillon. « Bois ceci, et je cesserai de t'importuner, mais seulement si tu bois. » Les criquets stridulaient dans le crépuscule. « Bien-aimé, je ne plaisante pas, je ne te laisserai pas tranquille tant que tu n'auras pas bu au moins cette chope. » Il répondit enfin, d'une voix monocorde, et sans me regarder.
« Pourrais-tu ne pas m'appeler ainsi ?»«
Quoi ? Bien-aimé ? » demandai-je perplexe. Son visage se crispa à ce mot.
« Oui. »
Je m'assis, la chope de bouillon tiède entre les mains, puis, après un moment de silence, je dis d'un ton gourmet « Si c'est ce que tu souhaites, fou, mais je ne m'en irai quand même pas tant que tu n'auras pas bu. » Je le vis bouger dans la pénombre. Il tourna la tête vers moi, puis tendit la main.
« Elle se servait de ce nom pour se moquer de moi, » murmura-t-il.
Il s'empara de la chope à geste malhabile, en s'efforçant de préserver de tout contact l'extrémité lacérée de ses doigts. Il se dressa sur un coude avec effort, en vacillant de douleur. J'aurais voulu l'aider, mais, le connaissant, je préférais m'abstenir de le lui proposer. Il avala le bouillon en deux longues gorgées, puis me rendit le récipient d'une main tremblante. Je le pris, et il s'étendit de nouveau sur le ventre. Comme je m'en allais pas, il me fit remarquer d'un ton las.
J'ai bu.
Je ressortis avec la casserole et la chope. Il faisait nuit. J'allongeai le bouillon avec un peu d'eau et le mis à mijoter près du feu jusqu'au matin. Je m'assis, le regard perdu dans les flammes, envahi de souvenirs auxquels je ne voulais pas songer, et me mordillai l'ongle du pouce jusqu'au moment où j'attaquai la chair d'un coup de dent mal placé. Je fis la grimace. Puis, les yeux perdus dans la nuit, je secouai la tête. Autrefois, j'avais eu la ressource de me retirer dans mon esprit de loup, où humiliation et dégradation ne signifiaient rien, où j'avais pu conserver ma dignité et rester maître de ma vie. Le fou, lui, n'avait nulle part où se réfugier. J'avais eu Burik et sa présence familière apaisante, j'avais pu m'isoler, trouver la paix en compagnie du loup. Je songeais à eu de nuit, me levais et partis chasser. Je n'eus pas autant de chance que la première nuit. Je revins au camp après le lever du soleil, sans gibier, mais avec une pleine chemise de prunes bien mûre. Le fou avait disparu. Une bouilloire pleine de tisane restait au chaud près du feu. Je réprimais une brusque envie de l'appeler et pris patience, ou du moins ce qui en tenait lieu, jusqu'à ce que je le visse remonter le chemin qui menait à la rivière. Il portait la robe des anciens et ses cheveux mouillés étaient plaqués sur sa tête. Il claudiquait sans grâce, avec de brusques embardées, les épaules voûtées. Non sans mal, je me retins de me porter à sa rencontre. Quand il arriva enfin devant moi, je lui dis « J'ai trouvé des prunes ». D'un air grave, il en prit une et y mordit.
« C'est sucré »,
fit-il, comme s'il s'en étonnait. Puis, avec la prudence d'un vieillard, il s'assit par terre. Je vis qu'il se passait la langue sur les dents, et je tressaillis en même temps que lui quand il découvrit la brèche laissée par celle qui manquait.
« Raconte-moi tout »,
demanda-t-il à mi-voix. Je commençai par le moment où les gardes m'avaient jeté dans la neige, hors du domaine de la femme pâle, et je lui fis un compte-rendu aussi détaillé que si j'avais eu Ambre devant moi, en train de m'écouter, en hochant la tête. Il changea peu à peu d'expression quand j'abordais le chapitre des dragons, et il se redressa lentement. Je sentis le lien d'art s'intensifier entre nous lorsqu'il voulut sonder mon cœur pour confirmer ce qu'il entendait, comme si les mots seuls ne suffisaient pas à le convaincre. De plein gré, je m'ouvris à lui pour lui permettre de partager ce que j'avais vécu ce jour-là, et quand je lui dis que Glacefeu et Tintaglia s'étaient accouplés en vol, puis y avaient disparu, un sanglot lui échappa. Pourtant, c'est l'œil sec qu'il me demanda, comme s'il ne parvenait pas à y croire.
« Alors, nous avons triomphé. Elle a échoué. Il y aura de nouveau des dragons dans le ciel de ce monde ?»«
Naturellement, » répondis-je, avant de prendre conscience qu'il ne pouvait pas le savoir. « Nous vivons ton avenir à présent. Nous suivons le chemin que tu nous as ouvert. » Un sanglot le suffoqua de nouveau. Il se leva avec raideur, fit quelques pas mesurés, puis se retourna vers moi, une profonde angoisse dans le regard.
« Mais je suis aveugle ici. Je n'ai jamais prévu ça. Toujours, dans toutes mes visions, en cas de victoire, je la payais de ma vie, je mourrais toujours. »
Il pencha lentement la tête de côté et fit comme s'il avait besoin que je le lui confirme.
« Je suis bien mort, n'est-ce pas ?»«
Oui, » répondis-je gravement. Mais je ne pus empêcher un sourire malicieux d'étirer mes lèvres. Toutefois, ainsi que je te l'ai dit à Castelserre, je suis le catalyseur, le changeur. Il demeura figé comme une statue, et quand le jour se fit en lui, j'eus l'impression de voir un dragon de pierre s'animer peu à peu. La vie se répandit en lui, il se mit à trembler, et cette fois, je n'eus pas peur de prendre son bras pour l'aider à se rasseoir.
« La suite, »
me pressa-t-il d'une voix hachée,
« raconte-moi la suite. »
Et je lui narrai donc le reste de cette journée, pendant que nous nous partagions les prunes, la tisane, et finissions le bouillon de lapin de la veille. Je lui appris ce que je savais de l'homme noir, et ses yeux s'agrandirent. J'évoquai la recherche de sa dépouille et à contre-cœur l'état dans lequel je l'avais trouvé. Il détourna le visage et je sentis notre lien d'art se réduire comme s'il avait voulu disparaître à mes yeux. Néanmoins, je poursuivis mon récit et je lui parlai de ma rencontre avec la femme pâle. Il m'écouta en se frottant les bras, puis demanda avec un tremblement dans la voix.
« Elle vit donc toujours ? Elle n'est pas morte ?»
« Je ne l'ai pas tué, avouai-je.
« Pourquoi ? »
s'exclama-t-il, avec une incrédulité stridente.
« Pourquoi ? Ne l'as-tu pas tué, Fitz ? Pourquoi ?»
Interloqué par cette sortie, je me sentis soudain stupide et répondis sur la défensive « Je l'ignore, peut-être parce qu'elle l'exigeait. » L'idée me parut ridicule, mais je l'exposai tout de même. L'homme noir et la femme pâle m'avaient désigné comme le catalyseur de notre époque, celui qui change le monde. Je ne voulais rien modifier de celui que tu avais créé. Nous restâmes silencieux un long moment. Il se balançait un peu d'avant en arrière et haletait légèrement. Il parut se calmer enfin, à moins que l'hébétude ne le gagnât. Puis, avec un effort qu'il s'efforça de dissimuler, il déclara.
« Tu as sans doute bien fait, Fitz. Je ne te reproche rien. »
Peut-être ces paroles étaient-elles sincères, mais sur l'instant, je crois que nous eûmes du mal l'un comme l'autre à nous en convaincre. L'éclat de son triomphe en fut terni et un petit mur impalpable se dressa entre nous. Je poursuivis néanmoins mon récit, et quand je racontai notre passage par un pilier d'art que j'avais découvert dans le palais de glace, il se pétrifia.
« Je n'avais jamais vu ça. »
avoua-t-il avec une note d'effarement dans la voix.
« Je ne l'avais même jamais imaginé. »
Mon récit touchait à sa fin. Quand j'en arrivai à la couronne, au coq, et à ma surprise en découvrant qu'il s'agissait, non de quelque talisman puissant, mais d'un simple réceptacle qui renfermait 5 poètes figés dans le temps, il haussa les épaules, comme pour s'excuser d'avoir désiré un objet aussi frivole.
« Ce n'est pas pour moi que je le voulais, »
murmura-t-il. J'attendis qu'il précise sa pensée, puis comme il se taisait, j'abandonnai le sujet. Même lorsque j'eus achevé mon compte-rendu et qu'il put mesurer l'étendue de sa victoire, il observa un mutisme insolite. On eût cru que son triomphe remontait à des années et non à quelques jours à peine. Sa façon de l'accepter lui donnait l'aspect d'un résultat inévitable au lieu de l'issue incertaine d'une bataille acharnée. Le soir, c'était discrètement installé. J'avais fini ma narration, mais le fou ne faisait pas mine de me raconter à son tour ce qu'il avait vécu, et je ne m'y attendais d'ailleurs pas. Néanmoins, le silence qui tomba entre nous s'en chargea. Il me dit son humiliation et sa stupéfaction d'avoir honte de ce qu'autrui lui infligeait. Je ne le comprenais que trop bien. Je savais aussi que, si je tentais de lui faire part de ma compassion, j'aurais l'air condescendant. Les intervalles entre nos échanges duraient trop longtemps. Les petites phrases que nous prononcions, moi pour annoncer que j'allais chercher du bois pour le feu, lui pour observer qu'il appréciait d'entendre les stridulations des insectes après les nuits qu'aucun bruit vivant n'interrompait sur le glacier, semblaient flotter comme des bulles isolées dans le vide qui nous séparait. Pour finir, il déclara qu'il allait se coucher. Il rentra dans la tente, pendant que j'exécutais les petites tâches habituelles d'un bivouac au noir tombé. Je couvris le feu, afin que les braises survivent jusqu'au matin, puis rangeai nos affaires de cuisine. Et c'est seulement alors que je découvris mon manteau soigneusement plié par terre devant notre abri. Je le pris, et installai mon lit près du foyer. Il avait du mal à se remettre, et besoin de solitude, je le concevais. Néanmoins, son geste me blessa, surtout parce que je l'aurais voulu mieux rétabli qu'il ne l'était. Il faisait nuit noire et je dormais à poings fermés quand un cri perçant jaillit de la tente. Je me redressai le cœur battant et ma main se porta aussitôt vers l'épée posée à côté de moi. Mais avant que je puisse la tirer du fourreau, le fou surgit, l'air terrifié, les cheveux en bataille. Sa respiration affolée l'ébranlait de la tête aux pieds et il s'efforçait de reprendre son souffle, la bouche grande ouverte. « Que se passe-t-il ? » lançai-je brusquement, et il sursauta avec un mouvement de recul. Puis, il parut revenir à lui et reconnaître ma silhouette sur le fond de braise.
« Rien, un cauchemar !»
Puis, il croisa les bras, les mains crispées sur les coudes, se courba en avant et se mit à se balancer légèrement, comme si une douleur terrible lui rongeait les entrailles. Au bout d'un moment, il reprit.
« Je rêvais qu'elle avait traversé le pilier. » Je me suis réveillé et j'ai cru la voir debout devant moi dans la tente.
À mon avis, elle ignore tous les piliers d'art et de leur fonctionnement, répondis-je pour le rassurer. Mais mon ton manquait de conviction et j'aurais voulu ravaler mes paroles.
Il ne dit rien et, frissonnant dans l'air frais de la nuit, se dirigea vers le feu. Sans rien lui demander, j'y rajoutai du bois. Il resta immobile, les bras serrés sur la poitrine, et regarda les flammes renaître, puis s'emparer du combustible. Enfin, il déclara d'un ton d'excuse.
« Je ne peux pas retourner là-bas cette nuit, je ne peux pas. »
Sans un mot, je dépliai mon manteau pour augmenter sa surface. Avec la prudence d'un chat, il s'approcha de moi. À mouvement maladroit, il s'assit, puis s'allongea entre le feu et moi. Sans bouger, J'attendis qu'il se détendît. Les flammes émettaient comme un marmonnement doux, et malgré moi, je sentais mes paupières s'alourdir. Je commençais à glisser dans le sommeil quand sa voix murmurante me réveilla.
« S'en remettons jamais. As-tu réussi à t'en relever ?»
Je sentis dans sa question la ferveur avec laquelle il souhaitait un lendemain dont cette ombre fut absente. Jamais vérité n'avait été plus pénible à dire.
« Non, on ne s'en remet pas. Je n'y suis pas arrivé et tu n'y arriveras pas.
Mais on continue à vivre. Ça devient une partie de soi, comme n'importe quelle autre cicatrice. Ton existence se poursuivra. »
Cette nuit-là, alors que nous dormions dos à dos sous les étoiles sur mon vieux manteau, je le sentis trembler violemment, puis sursauter et lutter dans son sommeil. Je me tournai vers lui. Des larmes roulaient brillantes sur ses joues, et il s'agitait en criant.
« Par pitié, arrête, arrête, tout ce que tu voudras, tout, mais arrête, je t'en supplie, par pitié !»
Je le saisis par l'épaule. Il poussa un hurlement perçant, et un instant, il se débattit frénétiquement. Puis, il se réveilla hors d'haleine. Je le lâchai, et il s'écarta de moi aussitôt. À quatre pattes, il s'éloigna sur le pavé de la place, fit halte à la lisière de la forêt où, la tête pendante comme un chien malade, il s'efforça de vomir, d'expulser les paroles de lâche qu'il avait prononcées. Je le laissai seul. Quand il revint, debout, je lui tendis mon outre. Il se rinça la bouche, cracha, puis but, et détourna le visage. Le regard plongé dans la nuit comme s'il espérait y repérer les parties de lui-même qu'il avait perdues. Je n'intervins pas. Enfin, sans un mot, il se rassit sur le manteau près de moi, puis se coucha, mais sur le flanc, roulé en boule et dos à moi, agité de tremblements convulsifs. Je soupirai. Je m'allongeai à côté de lui, me rapprochai peu à peu, puis, malgré sa résistance, l'obligeai doucement à se retourner vers moi et le prit gauchement par les bras. Il pleurait sans bruit. Du pouce, j'essuyai ses larmes. En prenant garde de ne pas toucher son dos à vif, je l'attirai à moi, posai le menton sur sa tête et le serrai contre moi. Je baisai délicatement le sommet de son crâne.
« Dors, fou, dis-je d'un ton bourru à la mesure de ma gêne. « Je suis là, tu n'as rien à craindre. »
Il leva les mains, et j'eus peur qu'il ne me repoussât. Mais non. Il saisit le devant de ma chemise et se blottit contre moi. Toute la nuit, je le tins dans mes bras, comme mon enfant ou mon amant, aussi tendrement que s'il se fût agi de moi-même, blessé et seul au monde. Je le tins pendant qu'il pleurait, et continuai de le tenir quand ses larmes se tarirent, en le laissant tirer tout le réconfort qu'il voulait de ma chaleur et de ma force. Jamais je ne me suis senti diminué dans ma virilité de cette décision.